Il y avait ainsi dans la ville plusieurs autres camps dont le narrateur, par scrupule et par manque d'informations directes, ne peut dire plus. Mais ce qu'il peut dire, c'est que l'existence de ces camps, l'odeur d'hommes qui en venaient, les énormes voix des haut-parleurs dans le crépuscule, le mystère des murs et la crainte de ces lieux réprouvés pesaient lourdement sur le moral de nos concitoyens et ajoutaient encore au désarroi et au malaise de tous. Les incidents et les conflits avec l'administration se multiplièrent. À la fin de novembre, cependant, les matins devinrent très froids. Des pluies de déluge lavèrent le pavé à grande eau, nettoyèrent le ciel et le laissèrent pur de nuages au-dessus des rues luisantes. Un soleil sans force répandit tous les matins sur la ville une lumière étincelante et glacée. Vers le soir, au contraire, l'air devenait tiède à nouveau. Ce fut le moment que choisit Tarou pour se découvrir un peu auprès du docteur Rieu. Un jour, vers 10 heures, après une longue et épuisante journée, Tarou accompagna Rieu qui allait faire au vieil asthmatique sa visite du soir. Le ciel luisait doucement au-dessus des maisons du vieux quartier. Un léger vent soufflait sans bruit à travers les carrefours obscurs. Venus des rues calmes, les deux hommes tombèrent sur le bavardage du vieux. Celui-ci leur apprit qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord, que l'assiette au beurre était toujours pour les mêmes, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, et que probablement, et là il se frotta les mains, il y aurait du grabuge. Le docteur le soigna sans qu'il cessât de commenter les événements. Ils entendaient marcher au-dessus d'eux. La vieille femme, remarquant l'air intéressé de Tarou, leur expliqua que des voisines se tenaient sur la terrasse. Ils apprirent en même temps qu'on avait une belle vue de là-haut, et que les terrasses des maisons se rejoignant souvent par un côté, il était possible aux femmes du quartier de se rendre visite sans sortir de chez elles.
« Oui, »
dit le vieux.
« Montez donc. Là-haut, c'est le bon air. »
Ils trouvèrent la terrasse vide et garnie de 3 chaises. D'un côté, aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait que des terrasses qui finissaient par s'adosser à une masse obscure et pierreuse où ils reconnurent la première colline. De l'autre côté, par-dessus quelques rues et le port invisible, le regard plongeait sur un horizon où le ciel et la mer se mêlaient dans une palpitation indistincte. Au-delà de ce qu'ils savaient être les falaises, une lueur dont ils n'apercevaient pas la source reparaissait régulièrement. Le phare de la passe, depuis le printemps, continuait à tourner pour des navires qui se détournaient vers d'autres ports. Dans le ciel balayé et lustré par le vent, des étoiles pures brillaient, et la lueur lointaine du phare y mêlait de moment en moment une cendre passagère. La brise apportait des odeurs d'épices et de pierres. Le silence était absolu.
« Il fait bon, » dit Rieu en s'asseyant. « C'est comme si la peste n'était jamais montée là. »
Tarou lui tournait le dos et regardait la mer.
« Oui, »
dit-il après un moment.
« Il fait bon. »
Il vint s'asseoir auprès du docteur et le regarda attentivement. 3 fois, la lueur reparut dans le ciel. Un bruit de vaisselle choquée monta jusqu'à eux des profondeurs de la rue. Une porte claqua dans la maison.
« Rieu, »
dit Tarou sur un ton très naturel.
« Vous n'avez jamais cherché à savoir qui j'étais. Avez-vous de l'amitié pour moi ?»«
Oui, »
répondit le docteur.
« J'ai de l'amitié pour vous. Mais jusqu'ici, le temps nous a manqué. Bon, cela me rassure. » Voulez-vous que cette heure soit celle de l'amitié ?
Pour toute réponse, Rieu lui sourit.
Eh bien voilà.
Quelques rues plus loin, une auto sembla glisser longuement sur le pavé mouillé. Elle s'éloigna. Et après elle, des exclamations confuses venues de loin rompirent encore le silence. Puis il retomba sur les deux hommes avec tout son poids de ciel et d'étoiles. Tarou s'était levé pour se percher sur le parapet de la terrasse, face à Rieu, toujours tassé au creux de sa chaise. On ne voyait de lui qu'une forme massive découpée dans le ciel. Il parla longtemps et voici à peu près son discours reconstitué. Disons pour simplifier, Rieu, que je souffrais déjà de la peste bien avant de connaître cette ville et cette épidémie. C'est assez dire que je suis comme tout le monde.
Mais il y a des gens qui ne le savent pas ou qui se trouvent bien dans cet état, et des gens qui le savent et qui voudraient en sortir. Moi, j'ai toujours voulu en sortir. Quand j'étais jeune, je vivais avec l'idée de mon innocence, c'est-à-dire avec pas d'idée du tout. Je n'ai pas le genre tourmenté, j'ai débuté comme il convenait. Tout me réussissait. J'étais à l'aise dans l'intelligence, au mieux avec les femmes, et si j'avais quelques inquiétudes, elles passaient comme elles étaient venues. Un jour, j'ai commencé à réfléchir. Maintenant, il faut vous dire que je n'étais pas pauvre comme vous. Mon père était avocat général, ce qui est une situation. Pourtant, il n'en portait pas l'air, étant de naturel bonhomme. Ma mère était simple et effacée. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, mais je préfère ne pas en parler. Lui s'occupait de moi avec affection et je crois même qu'il essayait de me comprendre. Il avait des aventures au dehors, j'en suis sûr maintenant, et aussi bien je suis loin de m'en indigner. Il se conduisait en tout cela comme il fallait attendre qu'il se conduisît, sans choquer personne. Pour parler bref, il n'était pas très original. Et aujourd'hui qu'il est mort, je me rends compte que s'il n'a pas vécu comme un saint, il n'a pas été non plus un mauvais homme. Il tenait le milieu, voilà tout. Et c'est le type d'homme pour lequel on se sent une affection raisonnable, celle qui fait qu'on continue. Il avait cependant une particularité. Le grand indicateur Chex était son livre de chevet. Ce n'était pas qu'il voyagea, sauf aux vacances, pour aller en Bretagne où il avait une petite propriété. Mais il était à même de vous dire exactement les heures de départ et d'arrivée du Paris-Berlin, les combinaisons d'horaires qu'il fallait faire pour aller de Lyon à Varsovie, le kilométrage exact entre les capitales de votre choix. Êtes-vous capable de dire comment on va de Briançon à Chamonix? Même un chef de gare s'y perdrait. Mon père ne s'y perdait pas. Il s'exerçait à peu près tous les soirs à enrichir ses connaissances sur ce point, et il en était plutôt fier. Cela m'amusait beaucoup, et je le questionnais souvent, ravi de vérifier ses réponses dans le Chex et de reconnaître qu'il ne s'était pas trompé. Ces petits exercices nous ont beaucoup liés l'un à l'autre, car je lui fournissais un auditoire dont il appréciait la bonne volonté. Quant à moi, je trouvais que cette supériorité qui avait trait au chemin de fer en valait bien une autre. Mais je me laisse aller et je risque de donner trop d'importance à cet honnête homme. Car pour finir, il n'a eu qu'une influence indirecte sur ma détermination. Tout au plus m'a-t-il fourni une occasion. Quand j'ai eu 17 ans, en effet, mon père m'a invité à aller l'écouter. Il s'agissait d'une affaire importante en cour d'assises, et certainement il avait pensé qu'il apparaîtrait sous son meilleur jour. Je crois aussi qu'il comptait sur cette cérémonie, propre à frapper les jeunes imaginations, pour me pousser à entrer dans la carrière que lui-même avait choisie. J'avais accepté parce que cela faisait plaisir à mon père, et parce que aussi bien j'étais curieux de le voir et de l'entendre dans un autre rôle que celui qu'il jouait parmi nous. Je ne pensais à rien de plus. Ce qui se passait dans un tribunal m'avait toujours paru aussi naturel et inévitable qu'une revue de 14 juillet ou une distribution de prix. J'en avais une idée fort abstraite, et qui ne me gênait pas. Je n'ai pourtant gardé de cette journée qu'une seule image, celle du coupable. Je crois qu'il était coupable, en effet, il importe peu de quoi. Mais ce petit homme au poil roux et pauvre, d'une trentaine d'années, paraissait si décidé à tout reconnaître, si sincèrement effrayé par ce qu'il avait fait et ce qu'on allait lui faire, qu'au bout de quelques minutes, je n'eus plus Dieu que pour lui. Il avait l'air d'un hibou effarouché par une lumière trop vive. Le nœud de sa cravate ne s'ajustait pas exactement à l'angle du col. Il se rongeait les ongles d'une seule main, la droite. Bref, je n'insiste pas, vous avez compris qu'il était vivant. Mais moi, je m'en apercevais brusquement, alors que jusqu'ici, je n'avais pensé à lui qu'à travers la catégorie commode d'inculpé. Je ne puis dire que j'oubliais alors mon père, mais quelque chose me serrait le ventre qui m'enlevait toute autre attention que celle que je portais aux prévenus. Je n'écoutais presque rien. Je sentais qu'on voulait tuer cet homme vivant, et un instinct formidable, comme une vague, me portait à ses côtés avec une sorte d'aveuglement entêté. Je ne me réveillais vraiment qu'avec le réquisitoire de mon père. Transformé par sa robe rouge, ni bonhomme ni affectueux, sa bouche grouillait de phrases immenses, qui sans arrêt en sortaient comme des serpents. Et je compris qu'il demandait la mort de cet homme au nom de la société, et qu'il demandait même qu'on lui coupât le cou. Il disait seulement, il est vrai, « cette tête doit tomber ». Mais à la fin, la différence n'était pas grande. Et cela revint au même, en effet, puisqu'il obtint cette tête. Simplement, ce n'est pas lui qui fit alors le travail. Et moi qui suivis l'affaire ensuite jusqu'à sa conclusion, exclusivement, j'eus avec ce malheureux une intimité bien plus vertigineuse que ne l'eut jamais mon père. Celui-ci devait pourtant, selon la coutume, assister à ce qu'on appelait poliment « les derniers moments », et qu'il faut bien nommer le plus abject des assassinats. À partir de ce jour, je ne pus regarder l'indicateur Chex qu'avec un dégoût abominable. À partir de ce jour, je m'intéressais avec horreur à la justice, aux condamnations à mort, aux exécutions, et je constatais avec un vertige que mon père avait dû assister plusieurs fois à l'assassinat, et que c'était les jours où, justement, il se levait très tôt. Oui, il remontait son réveil dans ces cas-là. Je n'osais pas en parler à ma mère, mais je l'observais mieux alors et je compris qu'il n'y avait plus rien entre eux et qu'elle menait une vie de renoncement. Cela m'aida à lui pardonner, comme je disais alors. Plus tard, je sus qu'il n'y avait rien à lui pardonner, parce qu'elle avait été pauvre toute sa vie jusqu'à son mariage et que la pauvreté lui avait appris la résignation. Vous attendez sans doute que je vous dise que je suis parti aussitôt. Non, je suis resté plusieurs mois, presque une année. Mais j'avais le cœur malade. Un soir, mon père demanda son réveil parce qu'il devait se lever tôt. Je ne dormis pas de la nuit. Le lendemain, quand il revint, j'étais parti. Disons tout de suite que mon père me fit rechercher, que j'allais le voir, que sans rien expliquer, je lui dis calmement que je me tuerais s'il me forçait à revenir. Il finit par accepter, car il était de naturel plutôt doux. Me fit un discours sur la stupidité qu'il y avait à vouloir vivre sa vie. C'est ainsi qu'il s'expliquait mon geste, et je ne le dissuadais point. 1000 recommandations, et réprima les larmes sincères qui lui venaient. Par la suite, assez longtemps après, cependant, je revins régulièrement voir ma mère et je le rencontrai alors. Ses rapports lui suffirent, je crois. Pour moi, je n'avais pas d'animosité contre lui, seulement un peu de tristesse au cœur. Quand il mourut, je pris ma mère avec moi. Elle y serait encore si elle n'était pas morte à son tour. J'ai longuement insisté sur ce début parce qu'il fut en effet au début de tout. J'irai plus vite maintenant. J'ai connu la pauvreté à 18 ans, au sortir de l'aisance. J'ai fait 1000 métiers pour gagner ma vie. Ça ne m'a pas trop mal réussi. Mais ce qui m'intéressait, c'était la condamnation à mort. Je voulais régler un compte avec le hibourou. En conséquence, j'ai fait de la politique, comme on dit. Je ne voulais pas être un pestiféré, voilà tout. J'ai cru que la société où je vivais était celle qui reposait sur la condamnation à mort, et qu'en la combattant, je combattrais l'assassinat. Je l'ai cru. D'autres me l'ont dit, et pour finir, c'était vrai en grande partie. Je me suis donc mis avec les autres que j'aimais et que je n'ai pas cessé d'aimer. J'y suis resté longtemps. Il n'est pas de pays en Europe dont je n'ai partagé les luttes. Passons. Bien entendu, je savais que nous aussi nous prononcions à l'occasion des condamnations. Mais on me disait que ces quelques morts étaient nécessaires pour amener un monde où l'on ne tuerait plus personne. C'était vrai d'une certaine manière. Et après tout, peut-être ne suis-je pas capable de me maintenir dans ce genre de vérité. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'hésitais. Mais je pensais au hibou, et cela pouvait continuer. Jusqu'au jour où j'ai vu une exécution. C'était en Hongrie. Et le même vertige qui avait saisi l'enfant que j'étais a obscurci mes yeux d'homme. Vous n'avez jamais vu fusiller un homme ? Non, bien sûr. Cela se fait généralement sur invitation et le public est choisi d'avance. Le résultat est que vous en êtes resté aux estampes et aux livres. Un bandeau, un poteau, et au loin quelques soldats. Eh bien non. Savez-vous que le peloton des fusilleurs se place au contraire à 1,50 m du condamné ? Savez-vous que si le condamné faisait 2 pas en avant, il heurterait les fusils avec sa poitrine ? Savez-vous qu'à cette courte distance, les fusilleurs concentrent leurs tirs sur la région du cœur et qu'à eux tous, avec leurs grosses balles, ils y font un trou où l'on pourrait mettre le poing ? Non, vous ne le savez pas, parce que ce sont là des détails dont on ne parle pas. Le sommeil des hommes est plus sacré que la vie pour les pestiférés. On ne doit pas empêcher les braves gens de dormir. Il y faudrait du mauvais goût, et le goût consiste à ne pas insister, tout le monde sait ça. Mais moi, je n'ai pas bien dormi depuis ce temps-là. Le mauvais goût m'est resté dans la bouche et je n'ai pas cessé d'insister, c'est-à-dire d'y penser. J'ai compris alors que moi, du moins, je n'avais pas cessé d'être un pestiféré pendant toutes ces longues années où pourtant, de toute mon âme, je croyais lutter justement contre la peste. J'ai appris que j'avais indirectement souscrit à la mort de milliers d'hommes, que j'avais même provoqué cette mort en trouvant bon les actions et les principes qui l'avaient fatalement entraînée. Les autres ne semblaient pas gênés par cela, ou du moins ils n'en parlaient jamais spontanément. Moi, j'avais la gorge nouée. J'étais avec eux et j'étais pourtant seul. Quand il m'arrivait d'exprimer mes scrupules, il me disait qu'il fallait réfléchir à ce qui était en jeu, et il me donnait des raisons souvent impressionnantes pour me faire avaler ce que je n'arrivais pas à déglutir. Mais je répondais que les grands pestiférés, ceux qui mettent des robes rouges, ont aussi d'excellentes raisons dans ces cas-là, et que si j'admettais les raisons de force majeure et les nécessités invoquées par les petits pestiférés, je ne pourrais pas rejeter celles des grands. Il me faisait remarquer que la bonne manière de donner raison aux robes rouges était de leur laisser l'exclusivité de la condamnation. Mais je me disais alors que si l'on cédait une fois, il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Il me semble que l'histoire m'a donné raison. Aujourd'hui, c'est à qui tuera le plus. Ils sont tous dans la fureur du meurtre. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mon affaire, à moi en tout cas, ce n'était pas le raisonnement. C'était le hibou roux. Cette sale aventure où de sales bouches empestées annonçaient à un homme dans les chaînes qu'il allait mourir et réglaient toute chose pour qu'il meure, en effet, après des nuits et des nuits d'agonie pendant lesquelles il attendait d'être assassiné les yeux ouverts. Mon affaire, c'était le trou dans la poitrine. Et je me disais qu'en attendant, et pour ma part au moins, je refuserais de jamais donner une seule raison, une seule, vous entendez, à cette dégoûtante boucherie. Oui, j'ai choisi cet aveuglement obstiné en attendant d'y voir plus clair. Depuis, je n'ai pas changé. Cela fait longtemps que j'ai honte. Honte à mourir d'avoir été, fût-ce de loin, fût-ce dans la bonne volonté, un meurtrier à mon tour. Avec le temps, j'ai simplement aperçu que même ceux qui étaient meilleurs que d'autres ne pouvaient s'empêcher aujourd'hui de tuer ou de laisser tuer, parce que c'était dans la logique où ils vivaient et que nous ne pouvions pas faire un geste en ce monde sans risquer de faire mourir. Oui, j'ai continué d'avoir honte. J'ai appris cela, que nous étions tous dans la peste. Et j'ai perdu la paix. Je la cherche encore aujourd'hui, essayant de les comprendre tous et de n'être l'ennemi mortel de personne. Je sais seulement qu'il faut faire ce qu'il faut pour ne plus être un pestiféré, et que c'est là ce qui peut seul nous faire espérer la paix. Ou une bonne mort à son défaut. C'est cela qui peut soulager les hommes, et sinon les sauver, du moins leur faire le moins de mal possible et même parfois un peu de bien. Et c'est pourquoi j'ai décidé de refuser tout ce qui, de près ou de loin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, fait mourir ou justifie qu'on fasse mourir. C'est pourquoi encore cette épidémie ne m'apprend rien, sinon qu'il faut la combattre à vos côtés. Je sais de science certaine... Oui, Rieu, je sais tout de la vie, vous le voyez bien. Que chacun la porte en soi, la peste, parce que personne, non personne au monde, n'en est indemne. Et qu'il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené, dans une minute de distraction, à respirer dans la figure d'un autre et à lui coller l'infection. Ce qui est naturel, c'est le microbe. Le reste, la santé, l'intégrité, la pureté, si vous voulez, c'est un effet de la volonté, et d'une volonté qui ne doit jamais s'arrêter. L'honnête homme, celui qui n'infecte presque personne, c'est celui qui a le moins de distractions possibles. Et il en faut de la volonté et de l'attention pour ne jamais être distrait. Oui, Rieu, c'est bien fatigant d'être un pestiféré. Mais c'est encore plus fatigant de ne pas vouloir l'être. C'est pour cela que tout le monde se montre fatigué, puisque tout le monde aujourd'hui se trouve un peu pestiféré. Mais c'est pour cela que quelques-uns qui veulent cesser de l'être connaissent une extrémité de fatigue dont rien ne les délivrera plus que la mort. D'ici là, je sais que je ne vaux plus rien pour ce monde lui-même, et qu'à partir du moment où j'ai renoncé à tuer, je me suis condamné à un exil définitif. Ce sont les autres qui feront l'histoire. Je sais aussi que je ne puis apparemment juger ces autres. Il y a une qualité qui me manque pour faire un meurtrier raisonnable. Ce n'est donc pas une supériorité. Mais maintenant, je consens à être ce que je suis. J'ai appris la modestie. Je dis seulement qu'il y a sur cette terre des fléaux et des victimes, et qu'il faut, autant qu'il est possible, refuser d'être avec le fléau. Cela vous paraîtra peut-être un peu simple, et je ne sais si cela est simple, mais je sais que cela est vrai. J'ai entendu tant de raisonnements qui ont failli me tourner la tête, et qui ont tourné suffisamment d'autres têtes pour les faire consentir à l'assassinat, que j'ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair. J'ai pris le parti alors de parler et d'agir clairement, pour me mettre sur le bon chemin. Par conséquent, je dis qu'il y a les fléaux et les victimes, et rien de plus. Si, disant cela, je deviens fléau moi-même, du moins je n'y suis pas consentant. J'essaie d'être un meurtrier innocent. Vous voyez que ce n'est pas une grande ambition. Il faudrait bien sûr qu'il y eût une troisième catégorie, celle des vrais médecins. Mais c'est un fait qu'on n'en rencontre pas beaucoup et que ce doit être difficile. C'est pourquoi j'ai décidé de me mettre du côté des victimes en toute occasion, pour limiter les dégâts. Au milieu d'elles, je peux du moins chercher comment on arrive à la troisième catégorie, c'est-à-dire à la paix. En terminant, Tarou balançait sa jambe et frappait doucement du pied contre la terrasse. Après un silence, le docteur se souleva un peu et demanda si Tarou avait une idée du chemin qu'il fallait prendre pour arriver à la paix.
Oui. La sympathie.
Deux timbres d'ambulance résonnèrent dans le lointain. Les exclamations, tout à l'heure confuses, se rassemblèrent aux confins de la ville, près de la colline pierreuse. On entendit en même temps quelque chose qui ressemblait à une détonation. Puis le silence revint. Rieux compta deux clignements de phare. La brise sembla prendre plus de force, et du même coup un souffle venu de la mer apporta une odeur de sel. On entendait maintenant de façon distincte la sourde respiration des vagues contre la falaise.
« En somme, »
dit Tarou avec simplicité, « ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on devient un saint.
Mais vous ne croyez pas en Dieu.
Justement, peut-on être un saint sans Dieu? C'est le seul problème concret que je connaisse aujourd'hui. » Brusquement, une grande lueur jaillit du côté d'où étaient venus les cris. Et remontant le fleuve du vent, une clameur obscure parvint jusqu'aux deux hommes. La lueur s'assombrit aussitôt et loin, au bord des terrasses, il ne resta qu'un rougeoiement. Dans une panne de vent, on entendit distinctement des cris d'hommes, puis le bruit d'une décharge et la clameur d'une foule. Tarou s'était levé et écoutait. On n'entendait plus rien.
On s'est encore battu aux portes. C'est fini maintenant,
dit Rieu. Tarou murmura que ce n'était jamais fini, et qu'il y aurait encore des victimes, parce que c'était dans l'ordre.
Peut-être,
répondit le docteur.
Mais vous savez, je me sens plus de solidarité avec les vaincus qu'avec les saints. Je n'ai pas de goût, je crois, pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme.
Oui,
nous cherchons la même chose, mais je suis moins ambitieux.
Rieu pensa que Tarou plaisantait, il le regarda. Mais dans la vague lueur qui venait du ciel, il vit un visage triste et sérieux. Le vent se levait à nouveau et Rieu sentit qu'il était tiède sur sa peau. Tarou se secoua.
Savez-vous, dit-il, ce que nous devrions faire pour l'amitié ?
« Ce que vous voulez, »
dit Rieu.
« Prendre un bain de mer. Même pour un futur saint, c'est un plaisir digne. »
Rieu souriait.
« Avec nos laissés-passer, nous pouvons aller sur la jetée. À la fin, c'est trop bête de ne vivre que dans la peste. Bien entendu, un homme doit se battre pour les victimes. Mais s'il cesse de rien aimer par ailleurs, à quoi sert qu'il se batte ?»«
Oui, »
dit Rieu.
Allons-y.
Un moment après, l'auto s'arrêtait près des grilles du port. La lune s'était levée. Un ciel laiteux projetait partout des ombres pâles. Derrière eux s'étageait la ville et il en venait un souffle chaud et malade qui les poussait vers la mer. Ils montrèrent leurs papiers à un garde qui les examina assez longuement. Ils passèrent, et à travers les terres pleins couverts de tonneaux,
Parmi les senteurs de vin et de poisson, ils prirent la direction de la jetée. Peu avant d'y arriver, l'odeur de l'iode et des algues leur annonça la mer. Puis ils l'entendirent. Elle sifflait doucement au pied des grands blocs de la jetée, et comme ils les gravissaient, elle leur apparut, épaisse comme du velours, souple et lisse comme une bête. Ils s'installèrent sur les rochers tournés vers le large. Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration calme de la mer faisait naître et disparaître des reflets huileux à la surface des eaux. Devant eux, la nuit était sans limite. Rieux, qui sentait sous ses doigts le visage grêlé des rochers, était plein d'un étrange bonheur. Tourné vers Tarou, il devina sur le visage calme et grave de son ami ce même bonheur qui n'oubliait rien, pas même l'assassinat. Ils se déshabillèrent. Rieux plongea le premier. Froide d'abord, les eaux lui parurent tièdes quand il remonta. Au bout de quelques brasses, il savait que la mer ce soir-là était tiède, de la tiédeur des mers d'automne qui reprennent à la terre la chaleur emmagasinée pendant de longs mois. Il nageait régulièrement. Le battement de ses pieds laissait derrière lui un bouillonnement d'écume, l'eau fuyait le long de ses bras pour se coller à ses jambes. Un lourd clapotement lui apprit que Tarou avait plongé. Rieux se mit sur le dos et se tint immobile face au ciel renversé, plein de lune et d'étoiles. Il respira longuement. Puis il perçut de plus en plus distinctement un bruit d'eau battue, étrangement clair dans le silence et la solitude de la nuit. Tarou se rapprochait. On entendit bientôt sa respiration. Rieux se retourna, se mit au niveau de son ami et nagea dans le même rythme. Tarou avançait avec plus de puissance que lui et il dut précipiter son allure. Pendant quelques minutes, ils avancèrent avec la même cadence et la même vigueur, solitaires, loin du monde, libérés enfin de la ville et de la peste. Rieux s'arrêta le premier et ils revinrent lentement, sauf à un moment où ils entrèrent dans un courant glacé. Sans rien dire, ils précipitèrent tous deux leurs mouvements fouettés par cette surprise de la mer. Habillés de nouveau, ils repartirent sans avoir prononcé un mot. Mais ils avaient le même cœur, et le souvenir de cette nuit leur était doux. Quand ils aperçurent de loin la sentinelle de la peste, Rieux savait que Tarou se disait, comme lui, que la maladie venait de les oublier, que cela était bien, et qu'il fallait maintenant recommencer.